Panorama.
Panorama.
Catherine Morel, vous venez de sortir un ouvrage qui s'appelle « Cette Europe qu'on dit centrale ». Alors effectivement, on parle souvent ou de Mitteleuropa, d'Europe médiane, d'Europe centrale. Les termes sont souvent discutés. Vous avez adopté l'idée d'Europe centrale, mais vous ne semblez pas tout à fait sûr, ou puisque vous dites l'Europe qu'on dit centrale, je vais vous laisser tout simplement nous présenter ce livre.
Bon, le livre est paru en 2009, donc chez l'éditeur Bouchaine à Paris, et c'est un essai de définir justement cette Europe qu'on dit centrale, parce que on se rend très vite compte que chacun met derrière ce terme un certain nombre de pensées, voire d'arrière-pensées, idéologisées ou pas, sur cette Europe centrale. Parce que quand on parle justement de Mitteleuropa, vous avez vous-même évoqué le terme, c'est pas du tout la même chose si on en parle depuis Paris, depuis Vienne ou depuis Berlin, par exemple. Et quand en France on parle de Mitteleuropa, on parle de l'ancien empire des Habsbourg. Quand en Allemagne on parle de Mitteleuropa, c'est avec l'Allemagne. Et quand encore on en parle en Autriche, c'est sans l'Allemagne. Donc il y a un problème là qui est évident, qui est la place de l'Allemagne, puisque les uns la mettent dedans, et les Allemands les premiers bien sûr, et les autres ne la veulent pas. Donc c'est déjà voilà un exemple de cette difficulté qu'on a à définir cet espace de l'Europe centrale, parce que la première partie du livre montre que cet espace a changé de place. Bien entendu, il n'y a pas eu de catastrophe nucléaire, hein, Vienne est toujours au même endroit, mais sur le plan de la géopolitique, sur le plan des concepts, cette Europe centrale a bougé. Elle est, depuis la fin du 18e siècle, quand elle a été conçue en tant qu'espace entre une Europe occidentale définie essentiellement par rapport à la France de l'époque, hein, la France des Lumières, une Europe orientale définie par la Russie d'un côté, qui fascine, mais qui est étrange ou étrangère, et puis un empire ottoman que on fait volontiers apparaître dans les turqueries exotiques, mais que l'on n'a absolument pas pour but de définir comme un espace de civilisation européen. Donc il y a quelque chose au milieu qui est, à l'époque bien sûr l'empire des Habsbourg, qui a besoin d'être défini autrement que par le simple concept dynastique d'empire habsbourgeois, et ça devient l'Europe centrale. Mais au fur et à mesure, ensuite, de ce qui va se passer au XXe siècle, l'Europe centrale bouge. Elle passe à l'ouest, elle passe à l'est, elle revient au centre. De nos jours, elle est revenue au centre, après un long purgatoire oriental. Donc, la première partie du livre essaye de montrer l'évolution du concept.
Vous parlez aussi des perceptions de cette Europe centrale en Europe centrale, en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est ou à l'Est. Voilà, je vous laisse aussi un petit peu nous expliquer.
Oui, donc la deuxième partie du livre entreprend de faire un petit peu une étude des perceptions de cet espace. Est-ce que, quand on est dedans, par exemple, on se conçoit comme quelqu'un d'Europe centrale? Est-ce que si on parle à un Autrichien, il va dire qu'il est d'Europe centrale? Non, parce que s'il est à Vienne ou s'il est à la frontière suisse, il ne va pas du tout avoir la même idée de ce qu'on va lui présenter comme l'Europe centrale. Et alors, dans les pays voisins, c'est encore plus évident. Si vous parlez à un Tchèque, très vite, le Tchèque va vous faire remarquer que Vienne est à l'est de Prague. Prenons un autre exemple tchèque, le fameux essai de Milan Kundera, l'Occident kidnappé. On l'a présenté souvent dans la redécouverte de l'Europe centrale dans les années 80 comme une volonté de faire revenir l'Europe centrale dans le débat politique. Alors c'est vrai, mais si on lit bien l'essai de Kundera, que dit Kundera? Que, par exemple, les pays tchèques sont en Occident et pas en Europe centrale. Alors il dit cette Europe que j'appelle centrale, c'est lui qui lance cette formule-là, mais si on lit bien ce qu'il dit, il ancre les pays tchèques à l'ouest et pas à l'est. Et voilà un exemple de perception locale, intérieure, même si Kundera, quand il écrit ça, vit en France, qui est très intéressant. Et selon les pays, on va trouver des perceptions différentes de soi-même, en tant que pays d'Europe centrale ou pas. Alors il y a toute la thématique du pont, de l'île. Nous sommes un pont entre l'Est et l'Ouest, ça a souvent été évoqué par les Tchèques aussi, où les Hongrois vont dire non, nous sommes une île parce que nous sommes entre des Slaves et les Germains. Et chaque pays va avoir ainsi, ou chaque nation va avoir ainsi une conception de sa propre place dans l'Europe dite centrale, ou par rapport à ce qu'ils vont comprendre comme Europe orientale, donc ce qui est à l'Est est forcément moins avancé, Donc on va toujours vouloir s'accrocher au train de l'Ouest et renier ou donner une mauvaise impression de ce qui est plus à l'Est, en sous-entendant que c'est un espace moins développé, moins moderne que celui dans lequel on prétend se trouver.
Le contexte politique joue beaucoup dans la définition ou dans la revendication du terme d'Europe centrale. Pour tous les intellectuels des années 60, 70, 80, vous avez évoqué Milan Kundera, il y a beaucoup la question du communisme aussi qui intervient dans cette définition de l'Europe centrale.
Oui, bien sûr, parce que selon les pays, on va présenter le communisme comme étant quelque chose d'étranger. Ça vient de l'Est, donc c'est forcément barbare. Ça, c'est très pratique pour dénigrer le communisme. C'est encore plus facile pour les pays qui ne sont pas slaves comme la Hongrie, où non seulement ça vient de l'Est, mais en plus, c'est russe. Donc c'est un double préjudice, si je puis dire, que l'on accorde aux communistes en disant « ça ne peut pas être bien puisque ça vient de l'Est ». Et en plus, ça vient des Russes, donc c'est forcément mauvais. Et il y a comme ça une gêne très évidente, et aussi chez les Tchèques d'ailleurs, qui au XIXe siècle était très panslave, était très intéressé par ce qui se passait en Russie, par la culture, par l'éventuelle aide que la Russie pouvait apporter au développement des nations slaves, mais aussi parce qu'on n'était pas en confrontation directe avec la Russie, ce qui n'est pas le cas des Polonais par exemple. Et finalement, quand les Tchèques, si je puis dire, entre guillemets, se réveille au mois d'août 1968, ils sont bien obligés de se rendre compte que l'idée qu'on pouvait éventuellement se faire de la solidarité panslave, elle est très amèrement déçue.
Pour parler de ces intellectuels qui ont beaucoup débattu ces 40 dernières années, donc Kundera, Konrad, Bibo, sur cette idée d'Europe centrale, est-ce que c'est aujourd'hui, en 2010, un sujet qui mobilise encore les intellectuels de République tchèque, de Hongrie, de Pologne ?
Non, alors ça c'est complètement fini. Ça a beaucoup agité les dissidents et puis ceux qui les fréquentaient dans les années 80. On a redécouvert l'Europe centrale. Il y a eu cette espèce de mode, justement, de mode Mitteleuropa. Mais ça a aussi servi des buts politiques. Hein. Bon, il y a eu un aspect très, on va dire, un peu niais, hein, de redécouverte de notamment de l'Empire des Habsbourg, où on a écrit beaucoup de bêtises. Mais ça a servi aussi, en Europe centrale même, du mauvais côté du rideau de fer, à faire revenir cet héritage historique qui n'était pas l'héritage communiste, qui n'était pas l'héritage hitlérien totalitaire, des deux totalitarismes, et de montrer au contraire les aspects positifs de cette histoire commune que toute cette Europe centrale avait eue pendant l'Empire des Habsbourg. Alors certains ont dérapé, sont tombés dans la nostalgie et ont voulu mythifier un petit peu l'Empire des Habsbourg en disant « mais c'était formidable, on vivait tous heureux, il n'y avait pas de conflit ». Mais il n'empêche que ça a servi beaucoup à la transition de 1989, c'est-à-dire que ça a aidé en grande partie ces intellectuels, mais aussi les sociétés, les mentalités locales, à revenir en Europe. De nos jours, bien entendu, tout ça, ça s'est effacé, puisque tous ces pays, à part la Croatie, sont dans l'Union européenne, sont revenus dans le centre de l'Europe, et donc ont moins ce besoin de faire savoir qu'ils appartiennent à l'Europe, et si possible à l'Europe occidentale, puisqu'ils sont dans l'Union européenne. Donc leur brevet d'européanité, ils l'ont conquis très rapidement. Et le débat sur cette place de l'Europe centrale, est-ce qu'elle est à l'ouest, est-ce qu'elle est à l'est, est-ce qu'elle est au milieu justement, est-ce que c'est un pont, est-ce que c'est une île, s'est effacé dans les années 90 quand le chemin vers l'intégration européenne s'est précisé.
C'était donc l'historienne Catherine Aurel. Elle répondait aux questions d'Anne-Claire Veluire. À noter que son livre, Cette Europe qu'on dit centrale, est en cours de traduction en serbe et en hongrois et qu'il a reçu en 2010 le prix Guizot de l'Académie française.